Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Quartararo, super héros Fabio Quartararo, premier pilote français, champion du monde de MotoGP catégorie reine de la vitesse. Il décroche son titre à l'issue du Grand Prix d'Émilie-Romagne cet après-midi en Italie. Fabio Quartararo a d'abord pleuré et après, il a confié sa joie.
J'ai pas les mots, sincèrement. Voilà, champion du monde. J'ai pleuré pendant une demi-heure sans m'arrêter. C'était mon plus grand rêve, je l'ai fait aujourd'hui, donc je sais pas quoi dire.
On reviendra sur le titre historique de champion du monde de moto de Quartararo dans la page sport de cette édition. Au menu également du football OM PSG ce soir au Vélodrome et puis du ski avec le retour de la Coupe du Monde ce week-end. À la une également, une marche blanche aujourd'hui à Mulhouse, 1400 personnes pour rendre hommage à Dina, 14 ans, victime de harcèlement scolaire et qui s'est suicidée au début du mois. Lancement réussi pour Ariane 5 la nuit dernière. La fusée a passé en orbite un satellite militaire présenté comme un bijou de technologie. Nous irons à Londres, où les Britanniques bouleversés sont inquiets après l'hospitalisation de leur reine Elisabeth II. Ils sont venus ce week-end devant Buckingham. Et puis à Oslo, le musée Munch a ouvert vendredi, un musée à l'architecture très controversée. Vos rendez-vous du 19h, la page agenda avec les temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Et puis bien sûr, c'est mon actu, Sandrine Houdin avec un jardinier paysagiste qui va fleurir à votre place les tombes de vos proches disparus pour la Toussaint. La météo, lundi, nuageux et pluvieux, sauf dans le sud-est. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux, Noël Bréham.
Bonjour les petits bateaux, je m'appelle Iloa, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi les villes de Nantes, Rennes et Vannes prennent un S. Merci les petits bateaux.
Après ce journal. France Inter. L'émotion de la mère de Dina à Mulhouse lors de la marche blanche en hommage à sa fille. 1400 personnes ont participé cet après-midi à cette marche pour honorer la mémoire de l'adolescente de 14 ans qui s'est pendue le 5 octobre dernier après 2 ans d'insultes et de harcèlement scolaire. La marche s'est arrêtée devant le lycée où Dina a été scolarisée avant de se suicider. Sa mère, la voix brisée, a lancé un appel pour que le harcèlement cesse. Sur place à Mulhouse, Julien Penaud, France Bleu Alsace.
Les slogans sont scandés par plusieurs groupes de filles comme Fanny et Delia, venues avec toutes leurs amies rendre hommage à Dina.
Dina, c'est une personne magnifique et qu'il faut arrêter le harcèlement et tout ce genre de choses parce que ça détruit des vies, ça détruit des familles.
C'est le genre de choses qu'il faut arrêter et il ne faut plus que ça se reproduise et on est tous là pour ça.
Un combat lancé contre le harcèlement scolaire car Amira en est sûre, c'est la raison du suicide de sa fille.
Pendant 2 ans, on a fait des pieds et des mains. Ça s'arrête, mais elles l'ont poursuivie jusqu'à la maison, jusqu'aux réseaux sociaux pour lui dire qu'elle était moche, qu'elle valait rien. Alors je vous en supplie, ceux qui ont des enfants, parlez-leur.
Un appel lancé aux parents d'élèves venus nombreux comme Sophia, mère de 4 enfants.
On se sent concerné de près ou de loin. La violence, elle est beaucoup trop banalisée, c'est-à-dire la violence verbale, physique. C'est important de faire passer le message aux enfants et les inciter à parler s'il devait y avoir quelque chose.
Parler, Dina l'avait fait, mais sa mère estime que le corps enseignant n'a pas réagi.
Plusieurs fois, je suis allée voir la CPE, plusieurs fois, j'ai appelé la vie scolaire, pratiquement tous les jours. Mais ils n'ont jamais rien pris au sérieux, en fait, rien. Ma fille a fait une première tentative, ils ne l'ont pas pris au sérieux non plus.
La famille envisage maintenant de porter plainte contre le collège en question.
Un reportage à Mulhouse, Julien Penaud, France Bleu, Alsace. Il est présenté comme un bijou de technologie. La France a placé en orbite hier un satellite militaire. Il servira notamment à soutenir les missions de l'OTAN et de l'Europe. La fusée Ariane 5 a décollé hier de Kourou, en Guyane, en emportant le satellite 4A du programme Syracuse. Un satellite conçu pour résister à des agressions depuis le sol, mais également dans l'espace. Luc Chemla.
Son objectif, permettre aux différentes armées françaises de communiquer n'importe où dans le monde, n'importe quand, à haut débit et surtout en toute sécurité. Pour ça, des relais au sol, aériens, marins et sous-marins vont être installés. Équipés notamment d'une antenne anti-brouillage, le Syracuse 4A est conçu pour résister aux cyberattaques et agressions militaires. Il est également protégé contre les impulsions électromagnétiques provoquées par une explosion nucléaire. Conçu par Thales et Airbus, construit par la Direction Générale de l'Armement, ce satellite va mettre 7 mois pour rejoindre son orbite et sera ensuite testé. Il sera donc véritablement opérationnel l'été prochain. De son côté, la ministre des Armées évoque un programme majeur pour moderniser nos capacités de défense et Florence Parly l'affirme. La France tient ainsi son rang de nation spatiale. Mais ce programme Syracuse a quand même un coût, près de 4 milliards d'euros.
Les Britanniques bouleversés et inquiets après l'hospitalisation de leur reine, tellement Elisabeth II est importante. La reine a été hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Son état de santé est l'un des secrets les mieux gardés de la couronne et Buckingham n'aurait peut-être jamais officialisé l'information si le quotidien Le Sun ne l'avait pas révélé. Depuis vendredi, les Britanniques et les touristes qui passent devant le palais de Buckingham jettent un œil à travers les grilles du château. La reine fait partie de leur vie. Reportage à Londres, Laura Calmus.
Devant les grilles du palais de Buckingham, les Britanniques étaient nombreux en cet après-midi ensoleillé. Prendre des photos, contempler les gardes immobiles, Sally et Alex Rashford sont venus de Brighton avec leurs enfants, l'occasion de réfléchir à la semaine mouvementée de la monarque.
Ici, ça me fait penser à elle et j'espère vraiment que ça va aller.
C'est une femme formidable, elle a atteint cet âge incroyable de 95 ans. Je lui souhaite le meilleur.
La reine Elisabeth a été vue en train de marcher avec une canne. Elle a annulé un voyage officiel en Irlande du Nord sur les conseils de ses médecins. Elle a été hospitalisée pour la première fois depuis 8 ans, mais Sarah et son père, assis sur le rebord de la fontaine en face du palais, refusent de s'inquiéter.
C'est juste un examen de routine, elle va parfaitement bien.
Je ne suis pas du tout inquiet, elle vivra jusqu'à plus de 100 ans.
Même sentiment pour Andrew qui n'arrive pas à se dire que la reine puisse un jour disparaître.
On est tellement habitué à elle, elle a été reine bien avant que je naisse, c'est difficile à imaginer.
Elisabeth II fêtera ses 70 ans de règne en juin prochain. Un week-end de 4 jours est prévu pour l'occasion avec défilés militaires, concerts géants et fêtes de rue en l'honneur de celle qui détient le record du plus long règne de l'histoire britannique. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Alerte à la pollution au large du Canada. Un gaz toxique s'échappe d'un porte-conteneur en flammes. Les gardes-côtes canadiens ont évacué 16 personnes du navire. Il n'y a, selon les autorités, aucun risque pour les personnes à terre. L'Allemagne, par la voix de son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, juge légitime la protection des frontières de l'Europe avec des murs et des barbelés pour empêcher l'arrivée massive de migrants. Vendredi, l'Union européenne a refusé de financer des barbelés et des murs aux frontières à l'issue du sommet européen. Une demande de 12 États, dont la Lituanie, l'Autriche et la Pologne. Et dans ce contexte, en Allemagne, la police a dû intervenir la nuit dernière contre des patrouilles de l'extrême droite. Des armes ont été saisies. Ces groupes cherchaient à intimider des migrants qui tenteraient de rejoindre l'Allemagne par la frontière avec la Pologne. Sur place à Berlin, Nathalie Versieux.
C'est un véritable arsenal qu'a découvert la police dans la nuit. Baïonnettes, machettes, matraques, les personnes interceptées à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne étaient connues pour appartenir à la mouvance d'extrême droite, la troisième voie. Par petits groupes, ces individus étaient bien décidés à intimider les migrants qui tenteraient de franchir de nuit la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Au total, une cinquantaine de personnes venant de la région, mais aussi de Berlin et même de Bavière, ont été repérés aux environs de la ville frontalière de Guben en ex-RDA. Tous ont désormais l'interdiction de séjourner dans la région. L'Allemagne assiste depuis le début de l'été à une recrudescence des migrations en provenance du Moyen-Orient, transitant vers l'Europe par la Biélorussie. L'Union européenne accuse le dictateur Loukachenko d'utiliser les migrants pour protester contre les sanctions décrétées par Bruxelles contre son régime répressif. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
La colonisation se poursuit en Cisjordanie. Israël annonce aujourd'hui la construction de 1355 nouveaux logements. Ils s'ajoutent aux logements déjà annoncés en août. Au total, plus de 2000 nouveaux logements qui doivent obtenir cette semaine un feu vert définitif du ministère israélien de la Défense. Sur place à Jérusalem, Michel Paul.
Ces 1355 nouveaux logements seront construits dans 7 colonies de peuplement en Cisjordanie. Le plus grand nombre, 729 précisément, dans une des plus grandes de ces colonies, la ville d'Ariel. Le ministère israélien de la construction a également indiqué son intention de doubler la population juive de la vallée du Jourdain avec un projet de mise en vente de 1500 unités de logement dans ce secteur d'ici à 2026. Et ce n'est pas tout. Ce mercredi, la commission de planification du ministère israélien de la Défense devrait donner un feu vert final pour la construction de plus de 3000 logements en Cisjordanie. Pour adoucir la pilule, quelques jours plus tard, cette même commission devrait entériner pour la première fois depuis longtemps, la construction de 1300 logements destinés aux Palestiniens dans la zone C. Ce secteur est entièrement sous contrôle administratif et sécuritaire israélien, selon les accords d'Oslo. Autant de sujets qui risquent de fâcher l'aile gauche de la précaire coalition gouvernementale israélienne, et aussi, et peut-être surtout, l'administration américaine. Jérusalem, Michel Paul, RFI pour France Inter.
C'est en quelque sorte le roman noir avant la remise des prix littéraires, la pénurie de papier. On parle beaucoup de pénurie de composants électroniques, de pièces automobiles, mais le papier est aussi concerné et cela inquiète le secteur de l'édition à 2 mois de Noël. Avec la crise du Covid, on a produit moins de papier et les transports maritimes se sont ralentis, entraînant une hausse des prix et des délais de livraison qui s'allongent. Pascal Lenoir, directeur de la production chez Gallimard et président de la commission environnement du syndicat national de l'édition.
On a la chance d'avoir des listes de titres qui sont annoncés longtemps à l'avance et qui progressivement diminuent au fil du temps et des sélections de chacun des jurys. Donc on s'y prépare depuis longtemps. En plus, même si à un moment donné on aurait perdu et donc avoir du papier dans nos stocks, on sait très bien que derrière il y a d'autres ouvrages qui vont arriver. Ce sont les mêmes papiers qui sont utilisés chez les mêmes imprimeurs. Donc c'est juste un surstockage temporaire qui sera utilisé pour les livres de décembre, de janvier, de février, etc. Le souci, c'est l'organisation, en fait. On a des plannings très chargés, c'est très tendu. Donc, si on a parfois quelques jours de retard parce que le papier n'est pas arrivé tout de suite à l'heure, que le planning de l'imprimeur est très, très chargé, c'est pas non plus un drame. On n'est pas dans l'urgence absolue comme peut l'être la presse ou d'autres documents imprimés qui doivent être le jour dit, à l'heure dite, à un endroit donné. On arrive à s'organiser.
Pascal Lenoir avec Jules Dekis. Marseille veut développer et mettre un peu d'ordre dans son parc de trottinettes électriques. Depuis ce week-end, les règles ont changé. Fini les trottinettes laissées de manière anarchique en travers des trottoirs. Les 3 opérateurs qui se partagent le marché ont pris des engagements de bonne conduite avec la mairie, installation de 900 lieux de stationnement, mais aussi mieux desservir les quartiers nord de la ville où les transports en commun font cruellement défaut. Sur place à Marseille, Olivier Martoc.
En plein milieu du trottoir, ouais, il faut les déplacer pour enjamber pour pouvoir passer.
Si tout se passe comme prévu, ce type de commentaire des abusés ne devrait plus être d'actualité. Fini les trottinettes laissées n'importe où. Les utilisateurs devront les déposer dans un des 900 parkings dédiés. Charlotte Serre, directrice générale de Voy France.
Ça va être un exercice progressif pour pouvoir mettre des zones de stationnement. Il faut qu'il y ait de la place sur les trottoirs. On a des GPS, on a une technologie qui permet qu'on ne puisse pas se garer en dehors de cette zone. Et on a aussi des communications avec les clients pour bien leur rappeler les règles de stationnement.
Autre nouveauté, plus de trottinettes électriques doivent être déployées dans les quartiers nord, moins bien desservies par les transports en commun. Manon Cervelot de Synergie Family travaille sur l'inclusion sociale dans les arrondissements défavorisés.
On a vraiment interrogé les habitants sur leurs besoins et en fait on s'est rendu compte que le besoin était vraiment dans le dernier kilomètre, le dernier kilomètre pour accéder à la gare TER, à la bouche de métro et également aussi pour se déplacer interquartier pour aller voir la famille, les amis, parce que c'est vrai qu'il n'y a que les bus qui passent dans ces quartiers-là.
Même s'il y a du mieux, malgré ce nouveau plan, les quartiers nord restent moins bien dotés. Un tiers seulement de la flotte de 4500 trottinettes y sera déployé alors qu'il représente plus de la moitié des habitants et de la superficie de la ville. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
C'est un musée exceptionnel mais qui fait jaser avec une tour oblique jugée provocante. Le musée Munch a ouvert ce week-end à Oslo en Norvège. Il est consacré au plus grand peintre du pays, Edvard Munch, l'auteur du Cri, son tableau emblématique qui représente un visage épouvanté. Ce nouveau musée à l'architecture controversée va permettre d'exposer l'imposante collection que l'artiste a léguée à sa ville 4 ans avant sa mort en 1944. Reportage à Oslo, Frédéric Fou.
C'est sombre, c'est gris. On dirait une installation militaire.
L'architecture du musée Munch, imposant blocos gris qui se dresse au fond du fjord d'Oslo, ne fait pas l'unanimité. Mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il était nécessaire. Les œuvres du plus grand peintre norvégien étaient jusque-là mal exposées. Plusieurs versions du Cri, son tableau le plus connu, ont même été volées. Le directeur Stein Olaf Eriksen explique pourquoi ce nouveau musée devait remplacer l'ancien.
Il n'était pas assez sûr et l'état des réserves n'était pas au niveau d'une collection si importante. On a aussi pris conscience de l'importance de Munch au niveau mondial. Dans la presse internationale, il y a 4 fois plus d'articles sur lui que sur la Norvège. Ce lieu n'est pas seulement pour les habitants d'Oslo, mais pour le monde entier.
De son adolescence à sa mort à l'âge de 80 ans, Munch aura été l'auteur de 27 000 toiles, dessins ou photographies. Les 2/3 ayant été découverts chez lui. Plusieurs versions du cri, peintes ou dessinées sur papier, seront exposées, mais aussi des toiles monumentales de 11 mètres de long. Preuve de l'intérêt autour de ce musée, l'un des plus grands du monde consacré à un seul artiste, les billets pour le découvrir gratuitement au cours de ce week-end se sont écoulés en quelques minutes. Oslo, Frédéric Faux, France Inter.
(rire) 19h15 sur France Inter, la page de sport de cette édition. Bonsoir Maxime Fayolle.
Bonsoir.
Un Français champion du monde de MotoGP ce dimanche, c'est une première. Fabio Quartararo décroche le titre au terme du Grand Prix d'Émilie-Romagne.
Et c'est historique Frédéric, le mot n'est pas trop faible. Jamais un Français n'avait été champion dans cette catégorie reine de la MotoGP. Voilà Fabio Quartararo devenu roi. Le pilote niçois, 22 ans, termine quatrième de ce Grand Prix italien cet après-midi. Il a profité de la chute de son rival Francesco Bagnaia à 4 tours de la fin pour s'assurer du titre alors qu'il reste encore 2 courses à disputer. Fabio Quartararo qui n'en revenait toujours pas à la fin de la course. Un sacre mérité pour le promoteur du Grand Prix de France, Claude Michi, qui rappelle le long parcours du champion niçois jusqu'à ce sacre aujourd'hui.
C'est quelque chose d'exceptionnel ce garçon depuis de nombreuses années avec son père qui l'a emmené rouler d'abord en Espagne et ensuite qui a gravi tous les échelons. Et qui fait une saison exceptionnelle et qui est champion du monde, ce qui pour la moto en France est quelque chose de merveilleux. C'est un garçon, ça n'a pas été toujours tout rose, hein. Il y a eu des débuts qui étaient très bien, après c'était plus difficile. Il est passé un peu dans l'ombre à un moment même quand Johann Zarco est arrivé chez Tech 3 avec des super performances. Il a fait une reconquête, de, je dirais même de lui-même. C'est un énorme travailleur, quelqu'un de rien n'arrive par hasard. Je pense que tous les jeunes qui regardent, il faut qu'ils comprennent que c'est un travail de très longues années, avec des bons et des mauvais moments, et avec surtout une famille derrière qui a donné le meilleur de lui-même pour qu'il puisse, si vous voulez, arriver à ce titre. Et je pense que j'espère que c'est pas le dernier.
Claude Michi sur ce premier sacre de Fabio Quartararo en MotoGP, le pilote félicité par Emmanuel Macron sur Twitter. Quelle course et quelle année, a salué le chef de l'État.
L'autre actualité sport de ce dimanche, Maxime, c'est le classique du football français ce soir avec le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain.
11e journée de Ligue 1, Marseille actuel 5e du championnat reçoit le leader. Un choc qui se déroulera devant près de 60 000 spectateurs, mais sans supporters parisiens, interdits de déplacement. L'OM qui n'a plus battu le PSG au stade Vélodrome depuis près de 10 ans, c'est dire l'ampleur de la tâche pour les hommes de Jorge Sampaoli ce soir. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Maxime.
En direct du stade Vélodrome pour France Inter, face à l'armada parisienne et son attaque de feu, l'OM peut-il briser la malédiction ?
Très compliqué vu l'écart de niveau, déjà 10 points de retard au classement de la Ligue 1 pour commencer avec un match en moins néanmoins pour Marseille. Et puis l'historique part de lui-même, vous l'avez évoqué, 101e classico ce soir, 46 victoires pour le PSG, 34 pour l'OM, 19 succès parisiens depuis l'arrivée des Qataris à Paris l'été 2011. Paris qui vient en plus avec sa pléiade de stars ce soir, Mbappé, Neymar, Di Maria qu'on ne présente plus, et la dernière arrivée cet été, Lionel Messi, premier classico pour lui avec le maillot du PSG. Ça exacerbe encore plus les tensions avant d'affronter du coup pour les Marseillais le meilleur joueur du monde ici, propriété comme on dit à Marseille du QSG, Qatar Saint-Germain. Voilà 10 ans que l'OM n'a plus gagné à domicile dans ce stade Vélodrome où je me trouve face à sa bête noire, vous l'avez parfaitement dit, parfaitement présenté. Comme du côté de Paris, avant que les Marseillais s'imposent la saison dernière, le contexte était différent, vous l'entendez, moins impressionnant que l'ambiance incandescente ici ce soir.
Alexandre Vaux en direct du stade Vélodrome. Début de cette rencontre à 20h45 au MPSG. C'est un classique du foot français, surtout façonné en affiche phare lorsque le PSG a été racheté par Canal+ dans les années 90. Ce n'est pas l'affiche la plus disputée de notre championnat, Alexandre Vaux l'a dit. 101e édition ce soir. La première rencontre remonte au 12 décembre 1971. Et Julien Froment, vous avez retrouvé le premier buteur parisien de cette rencontre.
C'était il y a un demi-siècle. Il est forcément très peu connu des supporters parisiens et pourtant Michel Prost a marqué au sens propre et au sens figuré l'histoire des classicos au MPSG, ce fameux 12 décembre 1971.
J'ai vu dans les articles récents
qu'il n'y avait que trois joueurs en dehors de moi qui avaient réussi le doublé. Paoletta, Ibra et Cavani. Bon, c'est pas mal. Hein. Bon, une certaine fierté, oui, parce que des successeurs avec les noms qu'on a aujourd'hui, c'était inimaginable.
Alors, au moment de raconter ses exploits, la mémoire flanche un peu, c'est tout à fait normal. C'était il y a 50 ans, mais Michel Prost, 75 printemps désormais, et qui a gardé le même sourire malicieux, peut compter sur les copains de l'époque, en l'occurrence son capitaine Jean Djorkaeff.
On s'est retrouvé à un moment, les anciens du PSG, avec Tchouki, Djorkaeff, le père du champion du monde. Il m'a rappelé que c'est lui qui avait débordé, qui avait fait le centre en retrait, que j'avais repris de volée, mais que le but c'était autant grâce à lui que grâce à moi.
Le Paris Saint-Germain, qui n'existait que depuis un an, en 1971, s'était logiquement incliné 4-2 face à l'OM, autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, le Paris de Messi, Neymar et Mbappé règne désormais sans partage sur le classique du football français.
Et Julien Froment, Paris qui mène en effet par 46 victoires à 34 dans l'histoire de cette rencontre pour 20 matchs nuls en 100 matchs au total. Dans les autres rencontres de cette 11e journée de Ligue 1, Nice a renversé Lyon en début d'après-midi 3-2 après avoir été mené 2-0. Lens confirme son statut de dauphin du Paris Saint-Germain en battant Metz 4-1. Rennes bat Strasbourg 1-0. Match nul entre Lorient et Bordeaux 1-1. Le promu 3 s'impose sur la pelouse de Reims 2-1. Monaco bat Montpellier 3-1.
Et on dispute également plusieurs classiques du football dans toute l'Europe ce dimanche.
Oui, en Espagne, le Real Madrid remporte le Clasico au Camp Nou sur la pelouse de Barcelone 2-1. Chez nos collègues anglais, Liverpool étrie Manchester United dans le théâtre des rêves d'Old Trafford 5-0. Il reste quelques minutes à jouer. Même score aux Pays-Bas en faveur de l'Ajax d'Amsterdam face au PSV Eindhoven.
Voilà, après le football, le ski, c'était le retour de la Coupe du Monde de ski alpin ce week-end. Les hommes et les dames se retrouvaient dans le Tyrol autrichien à Zolden sur le glacier du Rottenbach à plus de 3200 mètres d'altitude. Mais l'équipe de France n'a pas atteint des sommets malgré le soutien du public. Enfin, un retour, on peut même dire que les Français ont déçu sur le géant de Zolden. C'est le long format de ce soir, Guillaume Batin.
Pour la première fois depuis un an et demi, les spectateurs étaient de retour au bord d'une piste de Coupe du Monde de ski. 9000 spectateurs contre 25 000 habituellement avant la période de la crise sanitaire. Pas obligé de porter le masque, contrairement aux skieurs et aux entraîneurs. Tous vaccinés et testés. La leader de l'équipe de France féminine, Tessa Worley, 8e du slalom géant hier.
Ouais, c'est génial. Bah, c'est super de pouvoir le partager, de voir autant de foule. Franchement, c'est vraiment chouette. Communier avec eux et être là à l'arrivée, leur faire un coucou, leur faire un signe en direct. Et puis... profiter de cette fête. C'est une fête, le ski, et il en a manqué un peu l'année dernière.
Chez les hommes, deux Français étaient très attendus. Celui qui a dominé la Coupe du Monde la saison dernière, Alexis Peintureau, vainqueur du Gros Globe de Cristal, et Mathieu Fèvre, qui a réalisé deux coups d'éclat et deux médailles d'or au dernier championnat du monde. Alexis Peintureau termine finalement 6e de la première manche, 5e place à l'issue des deux courses.
Ça a été très difficile. J'étais content d'être là et pour autant j'arrivais pas à avoir la niaque que je voulais, que j'ai d'habitude sur une course. J'avais l'impression d'être un peu spectateur. La deuxième manche beaucoup mieux quand même, hein, malgré tout, mais les deux manches, voilà, je me suis pas senti avec ce tonus musculaire qui me caractérise et qui fait que j'arrive à skier, raccourcir, etc. J'espérais qu'on ait des conditions difficiles, de la glace, ce qui correspond bien en plus à mon ski, parce que techniquement, je savais que techniquement j'étais déjà présent. Mais après, il me manquait encore les 5-10% de... Il faut que j'arrive maintenant à monter le curseur et surtout à me sentir avec la niaque, quoi.
Et Mathieu Fèvre, 2e de la première, termine finalement 11e du général et très déçu.
Aujourd'hui, il faisait très très chaud sur la partie haute, donc il va falloir voir un peu comment mon matériel a bougé, notamment les chaussures, savoir si elles n'ont pas un petit peu trop ramolli en attendant au départ, ce qui fait que peut-être qu'elles n'étaient pas assez réactives dans la partie du mur, mais il y a aussi peut-être la façon dont j'ai skié qui n'a pas été la bonne.
Prochaine Coupe du Monde de ski, le week-end du 13 novembre à Lecce, toujours en Autriche. 3 semaines d'entraînement et de préparation qui permettront peut-être à Alexis Peintureau de retrouver son tonus musculaire et à Mathieu Fèvre de résoudre son problème de chaussures trop molles. À Zolden, Guillaume Batin, France Inter.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec demain sur l'agenda politique et de la campagne présidentielle. Une date et un lieu, Budapest. Marine Le Pen rencontre le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Une visite en Hongrie un mois après celle d'Éric Zemmour, son potentiel rival à l'extrême droite. Et puis concernant l'épidémie de coronavirus et les rappels de vaccins, l'Agence européenne de médicaments rendra demain également sa décision sur les rappels avec Moderna. Ce vaccin est pour l'instant suspendu pour les troisièmes doses en France. À noter aussi pour demain lundi le déplacement d'Emmanuel Macron à Saint-Étienne sur le thème des technologies d'avenir. On en parlait dans le journal, c'est la saison des prix littéraires avec le Fémina demain, puis le Médicis mardi. Sur l'agenda judiciaire de la semaine, à noter mardi le procès aux assises de l'affaire Knoll. Deux hommes accusés du meurtre de Mireille Knoll, une octogénaire juive poignardée à Paris en 2018, comparaissent pour meurtre sur personne vulnérable et commis en raison de la religion de la victime, Mathilde Vincenneux.
Devant les enquêteurs, les deux accusés ont reconnu qu'ils étaient tous les deux dans l'appartement au moment du meurtre. L'un est le fils d'une voisine de Mireille Knoll, il la connaît depuis l'enfance. À la table de la vieille dame ce jour-là, il enchaîne les verres de Porto, appelle un ami qu'il a rencontré en prison et lui propose de le rejoindre pour la voler, explique le deuxième accusé. Quel a été leur rôle précis ensuite? Leurs versions s'opposent. L'un dit que celui qui connaissait Mireille Knoll a parlé des Juifs, de leur bonne situation financière, qu'il a crié « Allah Akbar » en poignardant la vieille dame. S'il y a un mobile antisémite, il repose notamment sur ses déclarations. Les deux accusés sont repartis ensemble après avoir mis le feu et dérobé quelques objets. Ils risquent la réclusion criminelle à perpétuité.
Et puis sur l'agenda international, la date à retenir c'est vendredi. Le pape François reçoit en audience le président américain Joe Biden au Vatican, le lendemain à Rome, sommet des chefs d'État du G20. Et on vous amène à la rencontre d'un jardinier paysagiste, pas comme les autres. C'est mon actu, Sandrine Houdin, avec Olivier Maillard, fleuriste à Calais. Et les commandes chez les fleuristes en attestent pour la Toussaint, alors que vous êtes nombreux cette année à partir pour beaucoup d'entre vous. Tradition oblige, ce sera pour aller fleurir les tombes de vos proches disparus, et une tendance se confirme, faire appel à quelqu'un pour fleurir ces tombes à votre place. Et c'est bien la crise sanitaire avec les interdictions de se déplacer qui a décidé Olivier Maillard de fonder Âme en paix. Il se rend dans les 16 cimetières du territoire du Grand Calais et les demandes vont croissant. Sandrine Houdin l'a trouvé en plein travail.
Olivier, là qu'est-ce que vous faites là ?
J'ai terminé le nettoyage complet du marbre.
Le rush a commencé quand pour vous ?
Le rush a commencé début octobre.
Déjà ?
Déjà. Dans les cimetières, la Toussaint, ça reste forcément le gros moment d'activité.
Donc là, vous plantez quoi en fait ?
Ça reste tradit, ça reste quand même la pomponnette, le chrysanthème. Ils me demandent beaucoup cette année parce que l'année dernière, ils n'ont pas pu honorer leurs défunts.
Confinement.
Confinement, voilà, restrictions sanitaires, le fait de ne pas pouvoir se déplacer. Il y a des gens pour qui ça a été dur.
C'est vrai qu'on n'a pas pensé au cimetière.
C'était pour eux une épreuve supplémentaire. Une femme qui avait perdu, qui était veuve, un homme qui avait perdu, qui était veuf. Ils étaient réconfortés d'avoir une image, d'avoir une photographie, voir que justement, eux ne pouvaient pas se déplacer, mais on pouvait quand même l'entretenir, que ça restait propre, même si ce n'était pas de leurs mains à eux. Ils étaient rassurés, ils étaient contents. Et là, je me suis dit, voilà, je vais créer Âme en paix. En fait, ceux qui te remercient le plus, c'est ceux qui peuvent plus se déplacer. Il y a des gens loin et ils ont aussi le coût pour se déplacer. Quand on est à Toulouse et qu'on a ses aïeux dans un cimetière à Calais, ça coûte de prendre la route, de venir poser des fleurs. Surtout en ce moment avec le prix à la pompe.
Ouais, là, on vous voit pas, vous êtes à radio, vous posez la main sur le cœur.
Ouais, c'est ça, ça donne de la gratitude, quoi. Ça, voilà, c'est de pouvoir rendre ce service à ces gens-là qui ne peuvent plus le faire et pour qui c'est réellement important, ça m'émeut. Puis on a aussi une partie de la clientèle, on a les thanatophobes.
Des quoi ?
Les thanatophobes, c'est des gens qui ont une relation avec la mort en général et les cimetières, ne peuvent pas pénétrer dans un cimetière, ne peuvent pas physiquement.
Thanatophobes,
la thanatophobie. Et ça touche beaucoup plus de Français qu'on ne pourrait le croire.
Et ils l'avouent, ils vous le disent ?
Ils le disent peut-être pas ouvertement, mais on peut le ressentir. Parce que on touche quelque chose de très sensible. La mort, le deuil, je suis pas une femme de ménage des cimetières, quoi. C'est pas ça, c'est pas mon travail. On comble quelque chose pour eux.
Olivier Maillard, fondateur d'Âme en paix. C'est mon actu. Sandrine Houdin en générique de cette édition. Dienab Sangaré et Benjamin Troncé en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal. Benjamin Troncin avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Stéphane Rousset et Sébastien Donat. Un grand merci à l'équipe et à vous d'avoir écouté ce journal. La